êtes sur Pastel 99.4, les coordonnées 0320 73 59 00. Donc bienvenue aux éditeurs et auditrices qui nous rejoignent en ce jour du 1er mai. Ce qu'on disait, la fête du travail, pas pour tout le monde, et heureusement. Donc on va, Inch'Allah, ce soir faire l'émission avec Ahmed Mikhtar, donc imam de la mosquée d'Avin al-Dask. Assalamu alaikum Ahmed.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Et on va revenir sur le tafsir, l'explication de la sourate, sourate al-Fatiha, celle de l'ouverture, Inch'Allah. On avait fait verset par verset, ça tu nous feras un rappel.
Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, auditeurs et auditrices, chers amis, très heureux d'être parmi vous ce soir, inshallah ta'ala, par la grâce de notre Seigneur, une nouvelle fois pour continuer l'exégèse et l'interprétation de la sourate al-Fatiha. Et on est arrivé au verset 5 dans lequel Allah, loué soit-il, nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc je rappelle que ce verset, nous avons déjà dit auparavant que l'imam Ibn al-Qayyim a écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle Madarij al-Salikin, les sentiers des itinérants, qui est traduit, enfin résumé et traduit par l'éditeur universel, et qui se trouve dans le marché, vous le trouverez dans les librairies et au furet aussi. Donc le livre est très intéressant, puisque ce livre-là est basé sur l'interprétation de ce verset pour nous parler du sens de l'adoration en islam. Et sur ce point-là, et sur ce thème très important de la vie ici-bas, que nous nous sommes arrêtés depuis plusieurs mois. Là, depuis plusieurs mois, on est sur ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi uniquement que nous adorons, et c'est auprès de toi uniquement que nous cherchons refuge. Sur le sens de l'adoration en islam, car Allah, exalté soit-il et loué, dans le Saint-Coran, nous a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer, dit le Seigneur. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Et de ce verset, nous comprenons que le Seigneur, loué soit-il, nous dit que l'adoration est le moyen qui amène à la piété. Et puisque l'adoration est le moyen qui amène à la piété, nous avons essayé de comprendre ce que c'était la piété. Nous avons pris le temps à expliquer ce que c'est que la piété. Nous avons conclu que la piété est un sentiment profond au fond du cœur, lié à la foi ferme et à la conviction en l'unicité d'Allah, et suivant les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin de rendre cette piété interne une piété externe, c'est-à-dire apparente, par la traduction de la foi qui est ancrée dans le cœur à travers les actions. Et la première des actions, c'est l'action du cœur qui ressent cette confirmation et affirmation au fond du cœur de l'unicité d'Allah, et puis qui a conviction en son Seigneur, conviction en l'islam, conviction en le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque matin, lui-même alayhi wa sallam nous a enseigné de dire Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasoula. J'agrée Allah comme Seigneur unique, j'agrée l'islam comme moyen de vivre et unique moyen de vivre, et j'agrée Muhammad alayhi salam comme prophète et messager. Donc, cette traduction de cette foi ancrée dans le cœur avec conviction, elle se fait par la première des actions. Et cette première des actions, c'est l'action du cœur qui vibre, qui frime, qui ressent et qui, bien sûr, expose ce qu'il ressent à travers ses sens. Le sens, les sens du corps. Et les sens du corps sont, bien sûr, dirigés par le cœur. Tel le dit l'imam Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh, le cœur est le conducteur du corps. Le cœur est le roi. Et les autres membres du corps, les sens, sont soumis à lui. Deuxième action de la traduction de l'unicité d'Allah qui est dans le cœur par l'action, c'est l'action de la langue. Car Allah a créé l'homme, il a fait que l'homme parle. Et cette parole, c'est ce qu'on appelle l'attestation. L'attestation de la foi. C'est-à-dire témoigner de la foi qui est au fond du cœur par une attestation exprimée par la langue. En utilisant n'importe quel langage, n'importe quelle langue. Ce n'est pas obligatoirement que ce soit la langue arabe. Et cette attestation de foi, dite en arabe shahadatan, elle a deux parties. Une partie, elle n'est qu'une, mais elle est en deux parties. Une partie concernant Allah et la conviction en Allah et la foi en l'unicité d'Allah, et une partie concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la conviction en lui et la foi en lui en tant que prophète et messager. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: témoigner de l'unicité d'Allah veut dire ashhadu an la ilaha illallah, ça signifie c'est toi uniquement, ô mon Seigneur, que je veux par ma vie, ma mort, mes adorations, mes sacrifices. Témoigner du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est l'envoyé de Dieu et son prophète, c'est ô Seigneur, c'est toi que je veux, mais par les choses que toi tu veux. Je te veux, mais selon ce que tu veux. Et c'est ça le secret de la foi. Le secret de la foi réside sur le fait de rendre ce qui est spirituel temporel. Rendre ce qui est spirituel quelque chose qui est pratique et qui est au quotidien dans le vécu du musulman. Et nous avons vu ensemble, Abd al-Qadr, à un moment donné, que le musulman, par ce fait, il affirme là où il se trouve sa citoyenneté et qu'il ne peut être que parmi les meilleurs citoyens du contexte dans lequel il se situe. Car l'islam n'appelle qu'à ce fait, c'est-à-dire être le meilleur citoyen du milieu dans lequel on se trouve. Et par quoi ? Par cette attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Témoigner de la foi, dit l'imam al-Ghazali dans l'Ihya, témoigner de l'unicité d'Allah relève du fait d'avoir cette conviction motrice. C'est un moteur de la vie qui nous permet, durant notre vécu, d'observer le Seigneur là où nous nous trouvons. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: من من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. S'il y a deux personnes, il est troisième, Allah. S'il y a trois personnes, il est quatrième, loué soit-il. Donc lui, il est partout par son savoir et son pouvoir, capable de tout savoir, capable de tout faire, loué soit-il, agit sur tout comme il veut. Et avoir cette conviction permet aux musulmans qui a cette conviction de vivre en observant la présence d'Allah avec lui, là où il se trouve. Et le prophète a dit: craignez Allah là où vous vous trouvez. Craignez Allah là où vous vous trouvez. Et lorsque tu commets une erreur, alors efface-la par une bonne action. Fais disparaître la mauvaise action par la bonne action. وخالق الناس بخلق حسن. Et aie un noble caractère et un bon comportement vis-à-vis des gens. Et c'est ça où réside le sens de la citoyenneté que nous avons cité auparavant. إياك نعبد وإياك نستعين. L'adoration amène à la piété. L'adoration amène à cette piété qui est à la fois dans le sens taqwa, piété liée au cœur et liée à l'âme, liée à tout ce qui est spirituel, mais en même temps liée avec le terme encore taqwa à tout ce qui est temporel, l'action. Car taqwa, ça vient de ittaqa. Et ittaqa, ça veut dire craint. Et craindre quoi? Craindre toute mauvaise action qui séparerait mon cœur de mon Seigneur bien-aimé. Je suis amoureux de Dieu et mon amour vis-à-vis de Dieu m'appelle à lui être fidèle. Toute infidélité risque de me séparer de mon Seigneur, risque de couper le lien de mon cœur avec mon bien-aimé et mon amour qui est mon Seigneur. Et le terme taqwa est là pour nous faire craindre le fait de tomber dans l'impiété, dans l'infidélité et causer la séparation. Et quand il y a séparation, tu te sépares de ton Seigneur, tu te rapproches de ton ennemi. Tu te rapproches de ton Seigneur, tu t'éloignes de ton ennemi. Tu as un ennemi qui te guette, et moi aussi. Il attend les moments, il attend les failles, il attend que tu glisses et tu tombes. Il voudrait bien que tu ne te relèves jamais, mais le Seigneur tend la main de sa miséricorde pour te relever. Et lorsqu'il te relève, et il te relève toujours, et il te le permettra toujours, c'est pour ton bien, c'est parce qu'il t'aime. Et nous avons conclu avec des textes coraniques et prophétiques qu'Allah, comme il a dit Ibn al-Qayyim dans un autre très beau livre qui est Le Jardin des Amoureux, dans son introduction, il dit, rahmatullah alayh, il dit que Allah n'a créé les cieux et la terre que par l'amour et que pour l'amour. Il les a créés parce qu'il aime créer, et quand il crée, il aime ce qu'il crée, c'est-à-dire il aime sa créature, subhanahu wa ta'ala, et quand il crée, subhanahu wa ta'ala, c'est pour une fonction. Jamais aucune créature de Dieu est créée pour une futilité ou qu'elle n'a pas de fonction dans la vie. Et donc cette fonction, c'est l'amour. Il crée par l'amour, il crée pour l'amour, loué soit-il. Et donc cette piété, pour la comprendre, on se réfère au Coran aussi, au noble Coran. Et le noble Coran nous parle des pieux à plusieurs reprises, notamment au début de la sourate Al-Baqarah. Allah, loué soit-il, dit Alif Lam Mim, Zalika Al-Kitab, La Rayba Fihi, Hudal Lil-Muttaqin. Alif Lam Mim, c'est un verset inimitable du Coran, preuve de l'inimitabilité du Saint-Coran. Zalik al-Kitab, ceci est le livre, sans aucune ambiguïté et sans aucun doute. Il vient de Dieu. Hudan lil-muttaqin, il est une guidée pour les pieux. Après, le verset qui suit, il nous explique ce que c'est que les pieux. Qui sont-ils les pieux au Seigneur? Il nous dit الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alors il nous dit clairement quels sont les pieux, les caractères des pieux, les caractéristiques des pieux, les signes qui nous montrent sommes-nous parmi les pieux ou nous ne sommes pas, sommes-nous parmi ceux qui adorent Dieu ou pas. Car nous avons vu tout à l'heure dans le verset, dans la même sourate, sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est-à-dire l'ibada, il amène à la piété. La piété, c'est une conséquence de l'ibada. L'adoration amène à la piété. Et la piété ici, il nous dit qu'est-ce que la piété, et donc il va nous parler des circonstances qui amène à la piété. Et il nous dit la première chose, c'est avoir foi en l'unicité d'Allah. Et ça, c'est un chapitre qui nous a pris Abdul Qadir toute une année, l'année dernière. On a parlé de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, avec tous ses caractères, les conditions de tawhid, ce qui annule le tawhid, et ainsi de suite. Aujourd'hui, après la dernière émission que nous avons vue, nous allons parler de la deuxième partie. Deuxième chose qui est une circonstance de la piété, qui est un moyen qui amène à la piété. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. D'accord? Wa yuqimuna. Et nous avons dit précédemment qu'Allah n'a pas dit wa yusallun. À aucun moment dans le Saint-Coran, Allah nous dit yusallun. Allah toujours il dit yuqimuna as-salat. Wa aqimu as-salah, aqimi as-salah. D'accord? Et quand il s'adresse aux croyants, wa yuqimuna as-salah, au passé, au présent, wa yuqimuna as-salah, wa aqamu as-salah. Les croyants ont fait l'iqama de salah, et on va expliquer ce que c'est et rappeler l'explication de ce que c'est l'iqama de salah. Et quand il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à n'importe quel individu parmi les musulmans, il dit aqimi as-salata li duluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr, aqimi as-salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Il dit aqimi as-salata. Jamais il n'a dit Allah azza wa jalla salli. Il dit aqimi as-salata. Jamais il a dit sallu, il dit aqimu as-salata. Jamais il a dit sallaytum alladhina yuqimuna as-salata. Donc le terme iqama, dans les traductions que vous avez, mes frères et sœurs, chers auditeurs, qui ne sont pas musulmans, qui lisent le Coran, il y a des erreurs dans la traduction du terme iqama. Il y en a qui ont traduit font la prière. Il y en a qui l'ont traduit pratique la prière, et ainsi de suite. Mais la meilleure traduction, c'est celle qui dit applique la salat. Ils ne disent pas la prière. Pourquoi? On avait dit que le terme prière est compris dans salat. Car le terme prière peut signifier une invocation. On te dit prie Dieu, c'est-à-dire invoque-le. Je prie Dieu pour toi, c'est-à-dire je l'invoque pour toi, en ta faveur. Lakin salat, le terme salat, c'est un autre terme. As-salat, elle a des conditions, elle a des principes, elle a des fondements, elle a des actes obligatoires et elle a des actes qui sont sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et salat a besoin d'une application. C'est une pratique. C'est un consensus de choses. C'est des actes, c'est des mouvements corporels liés à l'âme, qui a fait le lien entre l'horizontal et le vertical. Il y a un lien qui est transcendant avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala, ça c'est le lien de l'âme, et un lien physique avec, bien sûr, la terre, entre la terre et le ciel. Et puis les mouvements de la prière le prouvent parfaitement, la ligne droite verticale du début de la salat, et la ligne courbée horizontale qui fait on dit en arabe, c'est comme si le corps il prend dans ses bras la terre, et quand il commence la prière, le fidèle, c'est comme si il prend dans ses bras la direction dans laquelle il se dirige, c'est-à-dire le Qibla. Et le Qibla, c'est le symbole de quoi? De l'unicité de Dieu, symbole de l'union des musulmans. Car tous les musulmans, ils se dirigent vers le même point et la même direction qui est la Kaaba. Tout ça, c'est très important à comprendre, et je vous invite à lire le livre Les secrets de la prière de l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, de faire attention à acheter une édition où vous avez les notes dans lesquelles il y a ce qu'on appelle la critique des textes utilisés. Le texte prophétique, parce que l'imam al-Ghazali n'était pas un alim, un savant du hadith, et il a utilisé des hadiths qui ne sont pas authentiques. Cela ne met pas pour autant son livre dans un sens négatif. Non, au contraire, le livre, il est très positif, il est très bien, Les Secrets de la Prière. Il a utilisé des textes, certains textes qui ne sont pas authentiques, mais ça ne nuit pas du tout au contenu lui-même, yani de la pensée de l'imam al-Ghazali, rahmallah, qui est l'un des savants de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, et qui est parmi les grands savants. Il s'appelait à son époque, il avait le titre jusqu'à aujourd'hui, de Hujjatul Islam, la preuve de la vérité de l'islam. La preuve de la vérité de l'islam, Imam al-Ghazali, rahimahullah. Donc là, vous avez une prière, et cette prière, elle n'est pas n'importe quelle prière, elle a un titre qui est As-Salat, et cette salat, elle comporte l'adoration de l'invocation. Elle comporte l'adoration de la récitation du Coran, elle comporte l'adoration de dhikr, la mention des noms d'Allah, elle comporte l'adoration du rappel, l'autre dhikr qui est les louanges et la gloire proclamée par le fidèle au sujet de son Seigneur. Elle comporte aussi le lien entre, on a dit, l'horizontal et le vertical, le lien entre le spirituel et le temporel, mais aussi elle comporte le lien entre l'individu et la umma tout entière, la communauté tout entière. Car il y a une sourate qui est un axe principal dans la salate, qui est la récitation de la sourate al-Fatiha, et elle est obligatoire, c'est-à-dire celui qui sait la réciter, il ne la récite pas, sa prière elle est annulée, elle ne compte pas. Et cette sourate al-Fatiha, un individu tout seul, même sur la lune, ne peut pas la réciter au singulier. Il doit la réciter au pluriel, et cela fait de lui un élément dans l'ensemble. Voilà pour nous remettre, après un mois, dans le parcours, inshallah.
Barakallahu fik, Ahmed. C'est vrai que ce rappel nous a été bien nécessaire, et inchallah on reviendra sur le contenu et la suite d'ici quelques minutes. Pour l'instant, on va s'écouter le Coran. Barakallahu fik, Farid. Bienvenue aux auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. Il est effectivement 20h53. Vous êtes à l'émission La Prophétie sur les ondes de Pastel 99.4. Un numéro de téléphone, le 03 20 73 59 00, 03 20 73 59 00, 73 59 00. Il y a Farid qui me fait signe pour me rappeler peut-être une information, Inch'Allah.
Oui, Inch'Allah. Donc, une information, donc là, on a eu le département des femmes de la mosquée Abou Bakar qui organise le 15 mai, après Salat al-Asr, une conférence avec Hela, donc sur le thème les idolâtries. Plus exactement, en fin de compte, les idolâtries et les méfaits sur la foi. Donc c'est le 15 mai, mosquée Abou Bakar, après Salat al-Asr. Il y a une deuxième manifestation qui sera organisée le 22 mai en partenariat, toujours avec le département des femmes de la mosquée Abou Bakar et la JTF de M. Mais on attend plus de précisions pour cette manifestation le 22 mai, inshallah. Voilà.
Barakallahu fik, Monsieur Farid. Ahmed, salam alaikum. Donc, Inch'Allah, on va revenir sur l'exégèse de la sourate Al-Fatiha qu'on étudie une fois par mois depuis, on disait plus d'un an, peut-être deux ans. Voilà, c'est bien ça. Et tout à l'heure, tu nous faisais en tout cas une explication sur la prière et salat. C'est pas la même chose, une prière, une invocation est une prière. Salat, elle nécessite tout un protocole, on va dire, pour pouvoir l'accomplir. Donc,
Bismillah, alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah. Le terme salat en arabe comporte aussi le mot dua. Salat et dua. Et salat aussi, dua aussi, c'est l'ibada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada, et ça c'est le hadith le plus authentique. Il y a un autre hadith qui dit ad-du'a mukh al-ibada, le mukh al-ibada, yani le premier hadith qui est authentique, le plus authentique, il dit ad-du'a, la prière, l'invocation, la salat, c'est l'adoration même par excellence. Et l'autre hadith qui est moins authentique que celui-là, il dit la prière ou la salat ou l'invocation, le dua, mukh l'ibadah, c'est-à-dire l'essence de la, l'adoration. Et nous, notre démarche depuis la semaine dernière, c'est de travailler ensemble sur notre salat à nous. Que ce soit nous qui sommes pratiquants ou que ce soit ceux parmi nos auditeurs qui espèrent la pratique, inshallah ta'ala, et qui, pour l'instant, ils n'ont pas eu le déclic. Et j'espère, par la grâce de Monseigneur, que cette émission pourrait donner une étincelle dans les cœurs de certains parmi nous, pour qu'ils puissent commencer, inshallah ta'ala, à adorer Allah Azza wa Jal par la chose la plus noble et la plus belle par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a instauré l'adoration, qui est salat. Puisque notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auquel croit tout musulman, pratiquant ou non pratiquant, et celui que aime tout musulman, pratiquant ou non pratiquant, le prophète lui-même, il a dit as-salat wa imaduddin, la salat est le pilier principal de notre religion. Aïcha radiallahu anha a dit, en citant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit wa kanat qurratu ayni as-salat, et il avait comme beauté de sa vue, la plus belle chose de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa vue, de sa pensée, de ce qu'il était, la plus belle chose, c'était salat, l'application de la salat. Aussi le prophète alayhi wa sallam, s'adressant à Bilal, il lui dit arihna biha ya Bilal, repose-nous par la salat au Bilal. Aussi Aïcha radiallahu anha, notre mère, la mère des croyants, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a quelque chose qui le soucie, qui le rend soucieux au sujet de lui-même, au sujet de la communauté, il va vite vers la salat. Yahra'u li salat. Il se dirige vite, il va directement faire une prière, une salat, et invoquer le Seigneur et l'adorer comme il se doit. Salat aussi, elle est citée dans le Saint-Coran comme le point commun entre tous ceux qui ont cru aux prophètes et messagers. Car tous ceux qui ont suivi les messagers de Dieu, les envoyés de Dieu, les prophètes, ils ont appliqué la salat. Car tous les prophètes de Dieu ont appliqué la salat. Tous, sans exception. Aussi, la salat, c'est ce qui va, le jour du jugement, comme le dit le Coran al-Karim, permettre aux musulmans, aux croyants, d'avoir une lumière dans l'obscurité de ce jour. Le jour où il y aura des visages resplendissants de lumière et d'autres obscurs. Hein? Le jour où il y aura des visages qui seront éclatants de lumière et qui verront leur Seigneur, la vision de la face de Dieu. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du jugement, ma communauté va s'exposer à moi, c'est-à-dire elle va être rassemblée à côté de moi, rulan muhajjalin, ils auront une lumière qui jaillira de leur visage, de leurs avant-bras et de leurs pieds. Et ça, c'est les traces de la salat et des ablutions. Car le visage, les avant-bras et les pieds, ce sont les membres qui se mettent à la prosternation et qui complètent la prosternation. On va le voir, inshallah ta'ala, tout à l'heure. Et aussi, c'est les membres qui sont, bien sûr, lavés spirituellement et corporellement par le musulman durant les ablutions al-wudu. Tout ça nous amène à quoi ? Nous amène à la compréhension de la salat. Et si on comprend quelque chose, on l'aime. Et lorsqu'on l'aime, on vit avec, on le pratique et on l'accomplit. Et donc, l'accomplissement, l'application de la salat est un processus spirituel et temporel, corporel, physique, qui fait le lien entre ce qui est physique et ce qui est spirituel, mais qui est dirigé par l'intelligence. Car le musulman croit en Allah certainement, sans le voir, mais il observe ses signes. Et ces signes sont observés par l'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sourate Al-Imran. Dans la création des cieux et de la terre, et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des signes pour des gens munis d'intelligence, les ulil albab. Allah dans sourate Al-Baqara, après avoir cité Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wa as-sahab al musakhkhar bayna as-sama'i wal ard. Après avoir cité toute cette création, la création de l'est des cieux et de la terre, la création des océans, la création des vents, la création de la pluie, les nuages, la poussée de l'herbe et de la nourriture sur terre, la création de la vie sur terre, les bateaux qui flottent sur les océans, tout ça il dit, l'ayat, c'est des signes, c'est des miracles, c'est des preuves. Pour qui? لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ dit Allah, pour des gens munis d'intelligence, des gens qui utilisent leur intelligence. Et là, la suite de ce verset, qu'est-ce qu'elle nous dit? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a parmi les gens certains qui prennent à part Allah d'autres divinités et qu'il les adore et les aime de la même manière qu'ils adorent et aiment Allah. Les associationnistes, les idolâtres. Allah continue dans le verset en disant: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et pour les croyants, le plus grand amour est Allah. Et donc, la contemplation du monde, la vie dans ce monde, la relation avec le cosmos dans lequel nous nous situons, la prière est là pour nous le rappeler 5 fois par jour canoniquement. Et on peut faire plus quand on a la possibilité et les moyens de le faire. Et donc, cette adoration qui est as-salat est applicable, praticable, accomplie par le croyant jour et nuit, selon le rythme qu'Allah a mis en place et selon les enseignements que son messager envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. La salat, mon frère, ma sœur, a des actes dits obligatoires et des actes dits sunnah qui suivent la tradition prophétique. Pourquoi les étudier? C'est très important pour nous. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles peut se trouve le musulman dans notre contexte ou ailleurs, où il ne peut pas, par exemple, accomplir totalement avec les actes obligatoires et sunnah les ablutions. Dans le milieu du travail, dans le milieu d'études, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse divine, par excellence, par l'enseignement parfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a fait en sorte de nous enseigner qu'il y a des actes qui sont obligatoires et c'est ceux-là qui permettent de faire la salat, d'accord, et de l'accomplir. Il y a des actes qui sont sunnah et qui sont là pour compléter et pour embellir la salat. Si on prend inshallah ta'ala ces actes-là un après l'autre, et notez bien et rappelez-vous-en inshallah ta'ala, ici il y a divergence dans les avis des savants de l'islam, on les exposera selon nos possibilités inshallah, et on trouvera bien sûr comme d'habitude, on vous donnera les références et on trouvera ensemble ce qui est authentique à suivre inshallah ta'ala, car tous les savants de l'islam, les grands maîtres, surtout les quatre maîtres des quatre écoles de pensée islamique, tous ils sont par consensus d'accord selon leurs dires et leurs actes, et leur science qu'ils ont enseigné, que lorsqu'il y a un hadith, une parole, une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, elle passe avant l'avis du savant. Elle passe avant. Même l'imam Malik, il a dit, si vous trouvez une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, contraire à mon avis, jetez mon avis contre le mur. Ne le prenez pas. L'imam Abu Hanifa a dit, al hadithu madhhabuna in sahha an rasulillah. Notre pensée et notre école, c'est une école de hadith lorsqu'elle est authentique, lorsque le hadith est authentique. Donc on ne suit pas, on ne passe pas à l'avis du savant que lorsqu'il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les savants, ils ont vécu dans des contextes différents, ce qui fait qu'il y en a qui ont reçu assez de hadiths et d'autres non. Et donc là, nous avons les actes obligatoires. Ces actes obligatoires, nous les apprendrons, inshallah ta'ala, dans le Coran d'abord. Le Coran, le Karim, nous dit que la salat, elle est canonique. La salat est obligatoire. Le musulman doit faire la salat. Le musulman doit appliquer la salat, si vous voulez. Le musulman doit pratiquer la salat. C'est une pratique religieuse, certainement personnelle, mais aussi collective, à la mosquée ou à la maison. La salat, le musulman, quand il la pratique, elle est obligatoire, elle a un nombre bien défini par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce nombre est de 5. Nous le trouvons dans le Coran illicité et nous le trouvons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les dires du prophète, par l'action du prophète et par l'approbation du prophète alayhi wa sallam. Et après, par bien sûr le consensus de toute la umma, toute la communauté musulmane, il y a 5 salats canoniques par jour que le musulman doit appliquer en adorant son Seigneur afin d'atteindre la piété. Car la piété, c'est ce qui permet aux musulmans d'aller au paradis et d'y accéder. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, nous dit, concernant la salat, il nous dit « Inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » La salat est pour les croyants un acte obligatoire selon des horaires fixes. Kitab, une obligation. Mawqut, min al-waqt, selon des horaires fixes. Qui est-ce qui va fixer les horaires? C'est Allah lui-même. Loué soit-il. Dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal dit Aqim al-salata tarafay al-nahar. Et là, il nous parle de la première salat, des 24 heures de la journée. La première salat que doit appliquer le musulman, c'est la salat al-dhuhr. La deuxième, c'est l'asr. La troisième, c'est le maghrib. La quatrième, c'est l'isha. La dernière, c'est le fajr. Les gens croient que c'est l'inverse. Le fajr, c'est la dernière salat de la nuit. Le maghrib, c'est la première salat de la nuit. La première salat de la journée du musulman des 24 heures, c'est dhuhr en réalité. Et c'est pour ça, dans les livres de fiqh qui parlent de salat et des règles de la salat, vous trouverez, quand ils vont commencer à citer les savants les salats, ils vont commencer par dhuhr. Abedan, jamais vous ne trouverez un savant dans son livre, il va commencer par le fajr par exemple. Non, car c'est la dernière, en fait, la dernière salat al-dhuhr. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dit Aqim al-salata tarafay al-nahar. Tarafay, les deux parties de la journée. Et les deux parties de la journée sont connues physiquement par les scientifiques. Un scientifique, tu lui dis quelles sont les deux parties de la journée, il va te dire la première partie, c'est au déclin du soleil. Le déclin du soleil. Le déclin du soleil, c'est juste après le véritable midi, qui est pour nous, ici en France, 14 heures. Ouais. Et qui est pour, par exemple, le Maroc, l'Algérie et l'Angleterre, c'est midi, 12 heures. Mmh. D'accord ? Parce qu'on a 2 heures, nous, de décalage avec le véritable midi. Et le véritable midi fait en sorte qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'ombre. Et c'est là où commence la première partie de la journée. Car avant le midi, c'est quoi? C'est la matinée. Petite matinée, fin de matinée. D'accord? Ce qu'on appelle en arabe « duha ». Puis après, il y a le déclin. Le déclin, c'est la première partie, c'est-à-dire « taraf l'awwal ». Et Allah Azza wa Jalla l'appelle autrement dans surat l'Isra, il dit aqim as-salata li-duluk ash-shamsi ila ghasaq al-layl, li-duluk ash-shamsi. Duluk, c'est-à-dire lorsque le soleil tend vers le couchant et commence à donner l'ombre. Hein? Là commence le début de la salat ad-dhuhr, le début de l'heure, la salat ad-dhuhr, car c'est un moment fixe. Il a un début et une fin. Tu fais la prière à n'importe quelle période durant ce moment. D'accord? Et donc il te dit Allah Azza wa Jalla aqim as-salata tarafay an-nahar. At-taraf al-awwal, la première partie, c'est celle-là. Elle s'étend, l'heure de dhuhr, jusqu'à quel moment? Jusqu'à l'ombre de l'individu, jusqu'à ce que l'ombre de l'individu ou de l'arbre ou de n'importe quel objet sur terre, elle atteigne la taille de la personne. Ou de l'arbre ou n'importe. L'ombre, elle atteint la taille. Là, l'heure de la salat de dhuhr, elle est terminée. Elle rentre quoi? Dès que l'ombre elle commence à devenir plus grande, rentre le début de l'heure de la salat al-asr.
L'asr.
Ah ouais, le deuxième taraf, la deuxième partie. Tarafay, les deux parties de nahar, de la journée. La deuxième partie, et tous les scientifiques le savent. Deuxième partie de la journée, c'est lorsque l'ombre des choses, elle devient plus grande que leur taille. Et elle s'étend jusqu'à l'arrivée de quoi? Du coucher. Le couchant, le coucher du soleil. Dès que le coucher du soleil est terminé, c'est-à-dire que le qurs, le cercle du soleil disparaît complètement, dès qu'il disparaît, rentre le début de l'heure de la salat al-maghrib. Le maghrib. Et il s'étend, l'heure de salat al-maghrib, elle s'étend jusqu'à la disparition de la lueur rouge. Car au début, il y a la disparition de la lumière blanche, puis la jaune, puis l'orange, et puis après la rouge. Dès que la lueur rouge disparaît, se termine l'heure de la salat al-maghrib, et rentre l'heure de la salat al-isha. Et l'heure de la salat al-isha, elle s'étend jusqu'à l'arrivée du lever de ce qu'on appelle le faux fajr, le lever de la lueur blanche qui disparaît par la suite, le fajr al-kadhib qui se lève et elle disparaît, le khayt cité par la sourate al-Baqarah, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, c'est ce fil blanc qui monte et qui disparaît. Là rentre l'heure de la prière de l'fajr, et elle s'étend jusqu'à quoi? Jusqu'à l'apparition du cercle du soleil. Dès que le cercle apparaît, khalas, yani l'heure de la prière de l'fajr, elle est terminée. Tout ça, c'est très important à comprendre. Et comment nous l'avons su? Par le Coran. Le Coran nous dit aqim as-salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl, et trois parties de la nuit qui sont le maghrib, l'isha ou le fajr. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at, les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Salat, elle fait disparaître les mauvaises actions entre elles, les salats. Quelqu'un qui a commis une mauvaise action entre l'adhuhr ou l'asr, l'asr elle vient, elle fait disparaître. Entre l'asr ou le maghrib, est obligé, il a commis quelque chose, il a fait une erreur. Le maghrib elle arrive, sincèrement il fait sa prière, elle fait disparaître. Et ainsi de suite, ça tourne, et on est protégé, et on est réhabilité, et on est réformé, et on est yani, purifié, et ainsi de suite. Yani. Durant toutes nos journées et nos nuits. Aussi un autre verset qui dit aqim as-salata liduluk ash-shamsi ila ghasaq al-layl, et applique la salat du déclin du soleil jusqu'à son couchant, et puis jusqu'à l'obscurité de la nuit. Wa aqim as-salata liduluk ash-shamsi ila ghasaq al-layl, et après il dit wa qur'an al-fajr, et la récitation du Coran durant Salat al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Salat al-Fajr, c'est ce qu'on appelle nous subh. L'aube, la salat de l'aube. Pourquoi ici il a dit Qur'an al-Fajr? Normalement, salat al-Fajr, mais il a dit Qur'an. Tout simplement parce que dans l'enseignement prophétique, la salat al-Fajr, c'est la salat durant laquelle on récite plus longuement des versets et beaucoup plus de versets de Qur'an que dans les autres salats. On récite plus longuement que les autres salats. Le prophète a toujours fait cela, il récitait beaucoup plus de versets durant salat al-Fajr que dans les autres salats, et c'est pour ça qu'elle, au lieu de s'appeler salat al-Fajr, elle est une salat de al-Fajr, mais elle a cette notion de Qur'an, yani on récite longtemps le Qur'an, hatta anna Omar radiallahu anhu, le calife Omar radiallahu anhu, il récitait souvent surat Yusuf. Toute la surat Yusuf, il la récitait durant salat al-Fajr. Ça prenait yani, plus de temps, en plus il s'arrêtait à certains versets, il pleurait radiallahu anhu, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est très important à comprendre pour pouvoir avancer inshallah ta'ala dans notre démarche. Et notre démarche, c'est quoi? C'est rendre simple et facile et accessible l'adoration de Dieu, le culte musulman et principalement la salat, cette prière. La rendre accessible aux musulmans, la rendre simple et la rendre facile dans son application, inshallah ta'ala.
Barakallahu fik, Ahmed. Inch'Allah, on va s'opérer une petite pause. Mais il y a une question, me dit-on, derrière la vitre, au niveau du technicien. Il s'appelle Farid. On va prendre la question, Inch'Allah, et après on va s'opérer une pause, Inch'Allah. Oui, allô?
Oui, salam alaikum.
Alaikum salam, rahmatullah.
C'est
Aïssa. Salam alaikum, Aïssa, on avait reconnu ta voix.
Ouais,
ça nous fait plaisir que tu sois avec nous ce soir.
Moi, je vous ai pas abandonné.
Non, mais il n'y a pas de problème.
Et moi, je voulais en profiter pour poser une question là, sur les différentes prières. C'est Ahmed, salam alaikum.
Alaikum salam, Aïssa.
Dis-moi, on parle de la prière médiane. Je ne sais pas si vous avez fait allusion.
Non, on n'a pas encore fait allusion.
Je ne sais pas si tu allais en parler après.
Khair, Inch'Allah, tu as précipité les choses. La salat médiane, les ulama ont trois avis à son sujet. Mm-hmm. Et à mon humble sens, et avis, c'est celle que la majorité des savants de l'islam disent, qui est salat al-Asr.
D'accord.
Mais il y en a qui ont dit c'est salat al-Maghrib et d'autres ils ont dit c'est le Fajr. Mm-hmm. Mais la majorité des savants disent il y a al-Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait allusion lorsqu'il a dit celui qui raterait souvent salat al-Asr, je crains pour lui qu'il soit parmi les munafiqin, des hypocrites. Voilà.
Et en quoi c'est une prière particulière? Parce qu'elle est confinée dans un temps limité
Non, son temps il n'est pas limité. Mais elle est dans une période difficile de la journée, en fin de journée.
D'accord.
C'est surtout pour ça.
D'accord.
Et c'est là où le côté démoniaque de l'homme joue sur lui, sur la fatigue et sur beaucoup d'autres notions.
Donc c'est là où il faut être le plus vigilant là.
Voilà, Inch'Allah, mais ça reste que les ulama sont divergents à son sujet. Mm-hmm. Ça peut être salat al-Maghrib, comme ça. La salat al-Maghrib, oui, elle est courte dans sa durée. Hein.
Ouais.
La durée de salat al-Maghrib. Et ça peut être le Fajr. Là.
D'accord.
Voilà, Inch'Allah.
Oui, oui. Ibarak fik, Aïssa.
Allez, bonne continuation, je vous écoute de là où je suis.
Ibarak fik. C'est gentil. 21h19 minutes, donc effectivement on va s'opérer une petite pause et on revient
avec salat.
Avec salat, le Maghreb, Inch'Allah. On se retrouve juste après. Salakallah al-Adim. 21h33 minutes. Bienvenue à nos auditeurs. Je rappelle un numéro de téléphone, le 03 20 73 59 00. Si vous avez des questions à poser sur la thématique de ce soir, en l'occurrence l'exégèse de la sourate Al-Fatiha, on entend parler plus en détail de Salat. Donc, toi Ahmed, pour vous expliquer. Alors, on s'est arrêté sur une question là, au niveau de la Salat, la prière, enfin la Salat.
Médiane,
donc celle du milieu. Je te posais la question, ça va réellement si ça correspondait à ça.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même, on a dit, défini les heures de la salat. les heures fixes de la salat qui ont, comme on a dit, un début et une fin. Chaque heure de la salat, waqt salat, il a un début et une fin. Il ne faut jamais se fier uniquement à l'horaire qui est dans le calendrier. Les horaires qui sont dans le calendrier, ce sont les débuts de chaque salat. Mais l'heure de la salat, elle s'étend du début de celle-ci jusqu'au début de l'autre. Et nous, comme on a dit, notre but, c'est la finalité de l'islam lui-même. L'islam a une finalité principale, c'est de rendre la vie et le culte facile et accessible et simple. Allah Azza wa Jalla, après avoir cité le jeûne du Ramadan, il a dit yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut pour vous la facilité, non pas la difficulté. Lorsque Allah, et ça c'est dans sourate al-Baqarah, lorsque Allah cite l'adoration de salat dans sourate al-Hajj, la dernière page de sourate al-Hajj, Allah cite l'adoration de salat. Il a dit ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu al-khayra la'allakum tuflihun. Lorsqu'il a dit ça, il a parlé de l'inclination ruku', de la prosternation et de l'adoration d'Allah qui est la salat ici. Il parle par la suite de l'appartenance à la guidée de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et il a dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ. Votre Seigneur ne vous a prescrit dans votre religion aucune gêne. Telle est la direction de Ibrahim, c'est-à-dire le chemin de Ibrahim, votre père, qui vous a nommé musulman. Le prophète Abraham est messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Et donc, dans notre religion, il ne doit pas, dans notre religiosité, dans notre action d'adoration de Dieu par le culte et la vie, on ne doit pas avoir de difficulté à pratiquer notre religion. Celui qui pratique l'islam dans la difficulté et dans la gêne, il n'a pas compris l'islam. Il n'est pas dans l'islam. Il faut qu'il le comprenne. Normalement, celui qui est dans l'islam, il adore Allah par l'islam et il vit par l'islam en étant heureux et dans le bonheur et dans la simplicité. Car l'islam, par ses préceptes, à chaque fois qu'il y a gêne, il trouve issue favorable. Et à chaque fois qu'il y a difficulté, il ne trouve facilité. Hein? Et à chaque fois qu'il y a préjudice, l'islam, par ses principes et préceptes, il écarte les préjudices de notre chemin et de notre vie. Et là, nous avons des horaires bien fixes, bien définis par Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, alayhi wa sallam, a été l'élève de Jibril alayhi salam. C'est lui qui lui a enseigné comment faire la salat, comment l'appliquer et les horaires de l'application de la salat. D'ailleurs, le premier jour quand il est venu sur terre le premier jour après l'ascension et le voyage nocturne, il est venu pour lui enseigner les heures de la salat et la manière de faire la salat. Il a fait l'imam, il a guidé. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam étaient à côté de lui. Il était dirigé par Jibril. Il est venu au début de l'horaire de chaque salat. Le deuxième jour, il est venu à la fin de l'horaire de chaque salat. Pour nous dire, voilà, ça commence à tel moment, ça se termine à tel moment, et vous avez tout ce temps-là pour appliquer la salat. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Lorsque tu es dans la possibilité, la capacité de le faire, durant l'heure fixe de la salat qui a un début et une fin, lorsque tu as la possibilité de le faire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te prépares. Fansab. Wa ila rabbika farghabi. Dirige-toi vers ton Seigneur. Hein? Et se préparer à la salat, c'est ça l'application de salat. C'est ça l'iqamat salat aussi. Et là, on fait partie. Car comme je vous ai dit, salat, c'est tout un processus. C'est toute une démarche à suivre. Et salat, elle agit dans notre démarche dans la vie. Elle agit dans notre vie. Car salat tenha anil fahsha'i wal munkar, nous dit le Coran. La salat, elle interdit à ceux qui la pratiquent d'agir et de commettre ce qui est blâmable, tout ce qui est turpitude et acte blâmable. Et donc le Coran, nous parlons de ces horaires de la salat qu'il faut observer, qu'il faut respecter. Il nous dit en même temps que ces salats sont du nombre de 5, mais qu'il y a une salat médiane qu'il faut observer. Cette salat médiane qui est importante aussi. car elle est dans un moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un moment qui est un moment de difficulté, fin de journée, début de soirée. Le shaitan est plus fort pendant cette période. D'ailleurs, il y a des textes prophétiques qui disent que shaitan lance ses disciples, il les diffuse, il les envoie vers la fin de les horaires de l'heure de l'asr et en s'approchant du coucher du soleil. Et c'est pour ça que le prophète sallam a dit: vos enfants, protégez-les des démons, ne les laissez pas jouer avant le coucher de soleil, juste avant le coucher de soleil, attendez jusqu'à ce que le soleil se couche. C'est le moment où ils sont plus forts et ils se diffusent et ils risquent de leur faire du mal. Et donc ces horaires de la salat à observer, pourquoi on les a cités de cette manière claire? C'est pour que certains parmi nous qui ont des difficultés à faire la prière, dites à l'heure comme ils le disent selon le calendrier, les horaires qu'ils ont dans le calendrier, qu'ils comprennent qu'ils peuvent, s'ils n'ont pas la possibilité au milieu du travail de la faire au début de l'heure, la faire à la fin de l'heure. Le prophète alayhi salatu wassalam, d'après le Bukhari ou Muslim et d'autres ulama, et c'est un hadith qui est cité dans les chapitres des horaires de la salat dans les livres de fiqh, le prophète alayhi salatu wassalam, comme nous rapporte les compagnons, kana yubridu bi salati dhuhr, yubridu, c'est-à-dire quand il fait chaud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas, ne dirigeait pas la salat al-dhuhr à la mosquée au début de l'heure. Il l'a laissé jusqu'à arriver à la fin de l'heure de dhuhr pour que le temps soit plus frais. Car les gens, ils vont sortir, ils vont venir à la mosquée et ils risquent de souffrir à cause de la chaleur intense de le lieu dans lequel ils ont vécu, qui est le lieu de la Mecque, le lieu de Médine, yani pas loin du désert, de l'Arabie.
Pour être clair, la fin de Dhuhr, pour nos auditeurs,
la fin de Dhuhr, c'est en rapprochant de l'Asr, voilà, jusqu'à l'heure de l'Asr, c'est-à-dire voilà. Ce qu'on appelle lorsque l'ombre, elle devient de la même taille, à la même taille que la personne.
Donc en ce moment, aujourd'hui, ce serait à peu près 14h hein, jusqu'à 5h, enfin 17h, presque 18h, 17h50. C'est bien ça, donc ça laisse une marge,
toute cette marge
très large.
Voilà, et se rappeler de ce verset, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, lorsque tu es libre, prépare-toi et applique la salat. وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ, et dirige-toi vers ton Seigneur et adore-le. Le prophète A.S.A. aussi, les compagnons, ils ont rapporté qu'ils ont prié avec lui Salat al-Fajr, ils sont sortis de la mosquée et rentrés chez eux, ils ne se reconnaissaient pas tellement il y avait l'obscurité. Donc il l'a fait au début. Mais aussi on a rapporté de lui qu'ils ont prié al-Fajr avec lui, ils sont sortis et ils se voyaient les uns les autres, donc le soleil commençait à faire montrer la lueur blanche de la montée du soleil. Donc il a fait la prière comme ça, il l'a fait de cette manière, il l'a appliqué de cette manière au début de l'heure, à la fin de l'heure, selon quoi, selon les besoins des musulmans et en suivant bien sûr le rythme islamique. Le rythme islamique, mon frère, ma soeur, est clair dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: siru sayra du'afaikum, cheminez selon le niveau et selon le rythme du plus faible parmi vous. Et le meilleur imam dans les mosquées, comme nous le disent nos maîtres, d'ailleurs l'imam Shawkani, il le dit dans son livre Nail Autar, le meilleur imam qui dirige la prière, c'est celui qui tient compte des plus faibles parmi ceux qui prient derrière lui. S'il y a des faibles, c'est-à-dire des personnes âgées, s'il y a des femmes qui prient, qui ont des enfants, le prophète sallam priait, il dirigeait la salat, il entendait un bébé pleurer. Il disait sallallahu alayhi wa sallam: j'avais l'intention d'allonger la salat. Quand j'entends le bébé pleurer, je la raccourcis par miséricorde vis-à-vis de sa maman, parce que sa maman, son cœur, il va être préoccupé par son fils. Ou s'il tient compte du malade, il tient compte alayhi wa sallam du vieillard, il a tenu compte des intempéries. Il a tenu compte des difficultés que peuvent vivre les musulmans et il lui est arrivé alayhi salatu wassalam de regrouper Dhuhr ou l'Asr, le Maghrib ou l'Isha, pour des raisons comme l'intempérie, comme la boue, comme aussi le voyage. Et aussi l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité l'autorisation de Ahmed Ibn Hanbal et de Qadir Iyad et d'autres savants concernant le malade. Celui qui est malade, il a le droit, il a l'autorisation de regrouper Dhuhr ou l'Asr, le Maghrib ou l'Isha, ou bien à l'heure de Dhuhr, ou bien à l'heure de l'Asr, ou bien à l'heure de l'Maghrib, ou bien à l'heure de l'Isha. Et ça, c'est pour rendre facile et simple et accessible le culte. De ces autorisations, on prend par analogie l'autorisation à ceux qui sont dans les universités ou dans les écoles durant leurs études, ou ceux qui sont dans leur milieu de travail. Hein? Les ulama aussi, ils ont autorisé, et ça il y a un hadith prophétique là-dessus, ils ont autorisé de regrouper le dhuhr ou l'asr ou le maghrib ou l'isha pour l'épouse ou l'époux qui prépare à manger pour son hôte, par peur qu'il gâche le repas. Et donc il peut regrouper, elle peut regrouper le maghrib ou l'isha ou le dhuhr ou l'asr, yani, pour préparer le repas et préparer la maison et préparer l'accueil de son hôte. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé sans aucune raison le dhuhr ou l'asr, le maghrib ou l'isha, une fois à midi. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dans les deux authenticités, le Bukhari ou Muslim et d'autres, il est cité que Abdullah ibn Abbas une fois faisait cours à la mosquée de Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait du monde. Il a commencé son cours avant salat al-maghrib. Le mu'addin, il a fait l'adhan de salat al-maghrib, il a continué son cours, Abdullah ibn Abbas. L'heure de la prière de l'Isha, le début de l'heure de la prière de l'Isha est arrivé. Et les gens, ils écoutent dars. Il y en a un qui s'est levé. Il a dit as-salat, as-salat. Yani, l'heure est arrivée. Il croyait que Abdullah ibn Abbas n'a pas fait attention, ou bien c'était une réaction de sa part.
Alors, on va prendre une question en direct. Oui, allô?
Oui, salam alaikum.
Walaikum salam.
En fait, je voudrais savoir si, comme maintenant la prière du Isha, elle est tard, est-ce que j'avais le droit de la faire en même temps que le Maghrib, parce qu'on m'avait dit qu'on avait le droit, ou alors je dois faire mon Maghrib, et ensuite, en fait, à l'heure où j'ai envie de dormir parce que je suis fatiguée, je fais mon Isha tout seul.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes fatigué, que vous ne pouvez pas faire la prière de l'Isha, yani au début de son heure, qui est actuellement à 22h40, si vous ne pouvez pas, par fatigue, parce qu'il faut savoir que être conscient durant la salat est un acte obligatoire. Et si par fatigue on n'est pas conscient, il vaut mieux la faire au moment où on est conscient. Vous avez le droit de la regrouper avec l'Isha, c'est-à-dire de la faire avec le Maghrib à l'heure de le Maghrib, juste après le Maghrib. Aussi, si vous avez des difficultés en étant quelqu'un qui s'endort tardivement après Salat al-Isha à se réveiller al-Fajr, il vaut mieux la prier et faire la prière de l'Isha en même temps que la prière de le Maghrib. D'ailleurs, nous, dans le rassemblement des imams du Nord, on s'est réunis dernièrement et on a décidé, comme chaque année, le moment dans lequel on va commencer dans nos mosquées, on est 9 mosquées, à regrouper en groupe le Maghrib ou l'Isha chaque soir. Et ce sera, inshallah ta'ala, à partir du 17 mai jusqu'au 7 août. Inshallah ta'ala, cette autorisation, elle sera du 17 mai jusqu'au 7 août, mais ça, c'est dans les mosquées. Dans nos mosquées, c'est les imams qui vont diriger la prière de cette manière. Par contre, vous, en tant qu'individu, vous pouvez, inshallah ta'ala, regrouper tant que vous êtes dans la nécessité et le besoin. Voilà, inshallah. De rien.
Votre question.
On disait qu'Abdullah ibn Abbas faisait son cours et la personne s'est levée, elle a dit as-salat, as-salat. Abdullah ibn Abbas lui répond en lui disant atu'allimuni sunnata la ummalak. Est-ce que c'est toi qui vas m'apprendre la sunna du prophète, que tu sois orphelin, c'est-à-dire orphelin de quoi? Orphelin de l'islam, orphelin de l'enseignement de l'islam. Alors il lui a dit, il a témoigné devant tous les gens, tous les Médinois, tous les Sahaba, ils étaient là. S'il avait fait une erreur, les Sahaba l'auraient remis en place. Il a dit, j'ai été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, dans cette même mosquée, et le prophète a prié 7 raka'at et 8 raka'at, sans qu'il y ait d'intempéries, ni d'invasion, ni de voyage. Invasion, c'est-à-dire l'ennemi nous a envahis. Hein? Et donc, il n'y avait pas de difficulté majeure. Et ça veut dire quoi, regrouper 7 et regrouper 8? C'est-à-dire, il a regroupé le Maghreb ou l'Isha, ça fait 7. Ou le Dhuhr ou l'Asr, ça fait 8. Et on va l'expliquer ça après, Inch'Allah. On lui a posé la question, oh Abdullah, qu'a-t-il voulu, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant cela? Pourquoi il a regroupé sans aucune raison et sans aucune gêne, sans aucune difficulté majeure? Il a dit, il a voulu faire sortir sa communauté de la difficulté et de la gêne. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une gêne, comme la sœur qui est fatiguée, qui n'arrive pas à attendre jusqu'à l'heure de la salat pour dormir, bien sûr, quelqu'un qui travaille le lendemain à 6 heures du matin, quelqu'un qui n'arriverait pas à se réveiller pour la prière de l'Fajr, qui est une prière primordiale et très importante, bien sûr, il a l'autorisation de regrouper Dhuhr ou l'Asr ou le Maghrib ou l'Isha dans ces situations-là. Le culte musulman, c'est une manière par laquelle on adore notre Seigneur. Et nul aucun musulman parmi nous n'a le droit de modifier ou de changer dans le culte musulman à sa guise. Nous ne pouvons apporter aucune réponse à ces difficultés sans qu'on ait de référence ou dans la parole d'Allah ou dans la tradition et l'enseignement de son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Barakallahu fik. Maintenant on va prendre une question, Inch'Allah. Oui, allô? On vous écoute, vous êtes en direct.
Voilà, à la Bali. Donc, c'est comme à la salat de Doha, yani sunna ou la.
Non. Salat de Doha sunna. C'est une sunna. Salat de Doha tabda man hinama tablugu ash-shams miqdar rumh. Ma katla ash-shams, quand je vois à peu près, تقريبن متر او متر ونصف. تبدا هذا الوقت ديالها البداية ديال الوقت ثم تبقى يعني الوقت ديالها حتى يلحق الظهر حتى يقرب الظهر وصلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتان وصلىها 6 وصلىها 8 donc vous avez le choix entre 2 6 ou 8 ركعات de صلاة الضحى 2 الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 8 نعم لكن ركعتان 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 مش يعني 8 دفيله
على جهه
نعم
نعم تقديم بس في كما نقولوا حنا كنبدا نصلي على التسعه معليش التسعه ونص
لا مليحه التسعه نعم تبداي مع السبعه كاع الا بغيتي نعم
على السبعه مليح
حتى على السبعه مليح نعم
على قبل هما داروا لنا هنا في الكنادري الضحى ما كانش في الكنادري بس سمعتها في البوست قالت لنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصليها وانا ما كنتش عارفها ما كانش اللي قال لي على بالك صافي درك كيتسنى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لازم احنا نصلوها نتبعوا الدين نتاعو
صحيح ولكن هي ماشي فرض علينا هي سنه
هي السنة بصح كمان كما إن شاء الله بربي
اللي يقدر عليها يصليها دائما نعم اللي يقدر يتبع يصلي إن شاء الله يتبع اللي ما قدرش الله غالب عليه
راه الصبح كما نقولوا احنا كما غدوة السبت راه كان أدري عندي
نعم
نعم دائما السبت الفجر
مع أقل 10 سيكونت
الفجر 4h49
هذيك هي
دونك الصبح كما نقولوا حنا على
حسبي ساعة ونص
الستة
حسبي ساعة ونص
الستة و 18 دقيقة واش نو
هذاك الشروق
26
هذاك الشروق
واش نهضوا الشروق هذا
الشروق انا اجبي لك اكسبليكي ان شاء الله خليك معايا ان شاء الله فسمعي لينا ما عندك سؤال اخر
هذا ما كان ما راح قابضني
خلاص انا غادي نشرح ان شاء الله في الشروق Je vais l'expliquer pour tout le monde. Bismillah, je vais vous l'expliquer,
Inch'Allah. Barakallahu fik. On y va pour votre question. On va continuer. Alors justement, peut-être traduire pour les auditeurs qui n'auraient pas compris.
Oui, la sœur, elle posait la question concernant la salat duha. Est-ce qu'elle est sunna ou pas? Donc salat duha, certes, elle est sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours fait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui est arrivé, comme ça a été rapporté, de la faire en 2 rak'at, comme ça lui est arrivé de la faire en 6 rak'at, c'est-à-dire 2, 2, 2, comme ça lui est arrivé au maximum de faire 8 rak'at. Et donc l'heure de l'horaire de la salat duha, il a un début, c'est lorsque le soleil, le cercle du soleil, la sphère, elle se lève, et qu'on la voit séparée de l'horizon d'environ 1m20 à peu près, hein? À peu près, on voit bien le cercle, hein? Là elle commence l'heure et elle s'étend jusqu'à l'arrivée de l'adhan de salat ad-dhuhr. Et là on a le temps de faire 2 rak'at quand on a la possibilité, 2 rak'at au début, puis après quand on est de retour du travail ou là, on fait 2 autres rak'at et ainsi de suite.
Il y a des calendriers qui le mentionnent ou...
Non, aucun calendrier ne mentionne salat ad-dhuhr parce que c'est une sunna.
D'accord.
Les calendriers mentionnent les salats qui sont canoniques, obligatoires, le fard. Maintenant, ces horaires des prières, comme on a dit, on les a cités, c'est pour faciliter aux gens et simplifier le culte. Certes, il y a des horaires prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager pour les prières canoniques. Il y a des horaires aussi qui sont prescrits obligatoirement pour nous interdire de prier durant ces horaires. Il nous est interdit de prier durant ces horaires-là. Ces horaires sont 3 temps dans la journée. 3 temps dans la journée. Le premier temps, c'est le coucher et c'est le lever du soleil. Le lever du soleil lui-même, au moment où le cercle du soleil commence à apparaître, jusqu'au moment où on le voit complètement. C'est un moment très court, mais c'est un moment durant lequel on n'a pas le droit de prier une prière surrogatoire, d'accord, et obligatoire chez la majorité des savants. Sauf l'imam Malik, rahimahullah, il a dit que la prière obligatoire, on a le droit de la prier durant ce moment-là. Pour la personne qui s'est levée tardivement, elle s'est levée à ce moment-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu te lèves, fais la prière. Et donc, s'il l'a fait, ou bien il a commencé avant, il l'a fini pendant ce moment-là, il n'a pas de restriction pour le madhhab et l'école malikite. Donc le moment Hada, ce moment, il s'appelle Shuruq, au sujet duquel elle a posé la question la sœur. L'Ukht Soulat ala Shuruq. Shuruq al-Mazkur, le calendrier, le Shuruq qui est sur le calendrier, c'est un moment qui nous disent les gens qui ont fait le calendrier, par exemple G10 de l'UIF, ils l'ont mentionné, c'est pour nous dire faites attention, c'est un moment durant lequel on ne doit pas prier. C'est pendant ce moment-là. إذن ما خصناش نصلو في هذا الوقت هذا لا يجوز الصلاة في هذا الوقت أي صلاة نافلة أما الفرض عند الإمام مالك يجوز لنا إذا فقنا متأخرين في هذا الوقت نصلي صلاة الصبح إن شاء الله. La sœur, comme beaucoup de musulmans, ne font pas de distinction et de différence entre la prière de le fajr et la prière de subh. Et même il y a des gens, même ça a été écrit dans certains livres, qui ont rajouté l'ambiguïté sur l'ambiguïté et ils ont parlé de prière de shuruq. Cette prière de shuruq n'existe pas. Le terme prière de shuruq n'existe pas. Salat shuruq ma kaynash. Pendant le shuruq, on ne doit pas prier. Par contre, la différence entre fajr et subh est très simple. Normalement, dans les livres de fiqh, vous ne trouverez mentionné, les grands livres, que le terme fajr. Car le Coran a parlé de fajr, ou le sunnah a parlé de fajr. Le fajr, c'est la prière obligatoire, mais elle comporte la surrogatoire avec elle. الفجر هو الصلاة الفرض التي نقرأ فيها بالجهر لكن معها الراتبة راتبتها معها صلاة النافلة الراتبة هذه معها اللي هي ركعتين بالسير. Chez nous les maghrébins d'origine, on a prière de الفجر et prière de الصبح. On va parler maghrébin inshallah. Prière de الفجر, c'est la prière surrogatoire, la prière volontaire qui est liée à la prière de الصبح. Et celle-là, dès qu'il y a l'adhan, on se dirige vers le Qibla et on fait Allahu Akbar directement, sans faire Iqama, sans faire le second adhan, ce qu'on appelle l'Iqama, le adhan mineur. Hein? Et on prie cette prière, une prière à voix basse et très courte. Tel est l'enseignement du prophète. Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié salat al-hadi, salat al-fajr, ratibat al-fajr, et il l'a fait très courte. Elle a fait attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité que surat al-fatiha dans chaque raka'a. Il n'a pas rajouté autre chose. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, une fois, était assis à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié salat al-fajr à la mosquée. Ça lui est arrivé des fois, alors que lui, souvent, il le fait chez lui, puisqu'il habite à côté de la mosquée, il est lié à la mosquée. Il a prié à côté d'Abdullah ibn Umar, et Abdullah ibn Umar l'a entendu réciter durant cette prière, et il a récité surat al-fatiha, il a rajouté surat qul ya ayyuhal kafirun dans la première raka'a, et dans la deuxième raka'a, il a récité le fatiha et surat qul huwallahu ahad. Donc c'est le plus lent verset que le prophète a récité après le fatiha dans salat al-fajr et pas autre chose. Donc si nous on prie le fajr, selon la sunna du prophète, on doit le faire de cette manière, ou d'une manière très courte ou d'une manière courte, de cette manière inshallah. Après, donc on attend, si on est à la mosquée, on attend l'arrivée de l'imam et que on fasse l'iqama, c'est-à-dire l'adhan mineur, et que l'imam dirige la salat. Et cette salat, c'est la salat canonique, c'est celle qui est obligatoire. Elle s'appelle El Fajr en réalité, mais elle est subh pour nous les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Mauritaniens, les Maghrébins. Ils disent Fajr et subh. Et cette prière de subh, elle se fait à voix haute, et la lecture, elle est longue. On récite en utilisant des sourates longues ou beaucoup de versets, sauf dans des cas, par exemple chez nous, ici en France, dans le Nord. Moi, par exemple, dans la mosquée où je dirige la prière, à Villeneuve-d'Ascq, ou d'autres imams, j'ai prié derrière d'autres imams, quand c'est l'heure de l'hiver, salat al-subh, elle est tard. Elle se fait vers 7h30, 7h20. Mm-hmm. Et lorsque on dépasse 7h du matin, on raccourcit. Pourquoi ? Pour permettre aux musulmans qui travaillent et qui ont leurs études d'aller à leurs études à l'heure et à leur travail à l'heure. Et ça, c'est suivant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Siru sayra du'afa'ikum » « Cheminez selon le rythme et le moyen du plus faible parmi vous. » Donc ça, c'est le moment de shuruq. Il nous est interdit d'appliquer une salat durant, surrogatoire durant le lever du soleil. Deuxième temps, c'est le temps du midi, vrai, quand il n'y a pas d'ombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est le moment le plus aimé par shaitan. » Ne priez pas durant ce moment-là. Hein? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'ombre. Et l'imam Ibn Taymiyyah l'a expliqué, il a dit que lorsqu'il y a l'ombre, l'ombre elle s'étend vers le Kaaba. Subhana Rabbi al-Azim. Quand c'est le matin, l'ombre elle est en direction de l'ouest. Et elle s'étend vers le Kaaba. Quand c'est l'après-midi, l'ombre elle est en direction de l'est et elle s'étend aussi vers la Kaaba. Et quand il n'y a pas d'ombre, donc il n'y a pas de direction vers le Kaaba, et donc il faut pas prier inshallah ta'ala durant ce moment-là. Le prophète l'a interdit. Troisième temps durant lequel on n'a pas le droit de prier et d'appliquer la salat, c'est le coucher du soleil, le vrai coucher du soleil. À partir du moment où le cercle il commence à disparaître jusqu'à la disparition totale du cercle, durant ce moment-là, on ne doit pas prier. L'imam Shawkani rahimahullah a carrément, à la fin, après avoir étudié cette situation, il a dit « Je déconseille aux musulmans de rentrer à la mosquée pendant ce moment-là. » Pourquoi ? Parce que le musulman, quand il rentre à la mosquée, il aime faire tahiyat al-masjid. Et il est interdit de prier pendant ce moment-là. Alors il vaut mieux ne pas rentrer. D'autres savants, ils ont dit « On rentre, mais on reste debout. » D'autres, ils ont dit « On rentre, on s'assoit directement. » C'est ce que dit l'imam Malik, rahmallah. Car la prière de ce qu'on appelle tahiyat al-masjid, le salut de la mosquée, n'est pas obligatoire. Et donc, on peut rentrer et s'asseoir. Lakin, la situation, elle est une situation d'interdiction de la salat durant ce moment-là, car Shaitan, yani, ses fidèles, se prosternent à lui pendant ce moment-là. Ce qu'ils appellent les deux cornes de de la journée, le coucher et le lever du soleil. Il ne faut pas prier durant ce moment-là. C'est sur ce point qu'on s'arrête aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et j'espère qu'Allah Azza wa Jal nous comble par sa miséricorde.
Amen.
Et il fasse en sorte que nous suivons les meilleures des paroles, inshallah.
Amin. Barakallahu fik, Ahmed. 22h04, on a un peu dépassé nos horaires. Donc vous restez à l'antenne, hein. C'est l'émission Safina, présentée par et préparée par JMF, section Tourcoing. Farid, tu avais donné une information, peut-être que tu peux la rappeler si tu l'as en tête.
Ouais, salam alaikum. Donc juste je remets mon casque. Voilà, comme ça il faut que je m'entende. Donc c'est bon.
Oui, simplement l'information, voilà. Donc c'est que la sœur
Le 15 mai, donc la mosquée Abou Bakar organise donc une conférence avec Hella. C'est après la Asr, c'est réservé pour les femmes. Le thème, c'est donc c'est les idolâtries,
oui.
Et les méfaits sur la foi. Et le deuxième, la deuxième conférence, en fin de compte, c'est une conférence qui aura lieu à M, et qui sera le 22 mai. Elle est faite en partenariat avec la GTF et la mosquée Abou Bakar. C'est à 18h45. C'est une conférence sur le thème je me drogue et j'ai l'espoir de m'en sortir. Et toi? Donc il y a deux intervenants, donc un éducateur spécialisé Farid Amran et une éducatrice spécialisée de Paris, Madame Messaoudi. Plus il y aura un imam. En l'occurrence, ça sera le Cheikh Youssef. Donc c'était l'ancien imam des Trois Ponts. Donc c'est donc le 22 mai à la salle du Nant, avenue Laennec.
On redonnera l'information.
Voilà. Juste signaler la sortie d'un DVD Mohammed, le dernier prophète, donc en dessin animé, donc
pour les enfants,
donc
pour les adultes.
Il a reçu l'approbation du conseil de l'académie des recherches islamiques de l'université d'Al Azhar. Il est très bien fait, donc n'hésitez pas. Donc c'est encore un outil supplémentaire pour apprendre, pour faire connaître aussi à vos enfants de manière un peu plus, de manière souvent d'aller s'animer la lecture des prophètes.
On le trouve où donc? Dans toutes les bonnes librairies?
Je vais vous donner un numéro de téléphone. En ce moment il est disponible, c'est le 06 62 22 96 41. 06 62 22 96 41. Il y en a encore un paquet. Donc n'hésitez pas à appeler.
Le prix,
très bien fait.
C'est 20 euros, hein, ouais, c'est bien ça.
C'est un super DVD. Mohamed, le dernier prophète en dessin animé pour les enfants. Donc n'hésitez pas. Voilà.
On peut le trouver aussi à la librairie Saphir, je pense. Quant à nous, vous restez sur les ondes de Pastel, hein, donc il y a Safina qui va enchaîner. Inch'Allah, quant à nous, on se retrouve vendredi prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc juste le temps de caler le son et on vous laisse. Salam alaikum.